Bonjour. Ce matin, quand on vous a demandé si vous alliez bien, vous étiez un peu mou.
Ça va bien.
J'ai trouvé. J'avais prévu ce message de longue date, puisqu'il s'agissait de la fin de ma série sur Notre Père. Mais je dois dire que j'ai été interpellé en relisant, en terminant, parce qu'il tombe juste après notre week-end de Champfleury. Et ce que nous avons vécu ensemble, pour ceux qui s'y sont rendus, j'ai envie de dire, tant pis pour ceux qui n'étaient pas. Non, je dis dommage. Dommage, dommage. Mais c'était quand même une grande partie de l'Église. Depuis plusieurs mois, mon premier message datait du 15 janvier. Bon, là, ça fait un drôle de... C'est une cathédrale ici. Nous avons étudié et recherché ensemble ce que disait cette prière du Notre Père. Ce qu'elle nous disait à nous, finalement, et puis ce qu'elle nous apprenait sur nous-mêmes. Et les dernières paroles que j'aimerais qu'on examine ensemble ce matin sont les deux dernières phrases du Notre Père. Et d'abord, délivre-nous du mal. Voilà, ce petit bout de verset-là. Délivre-nous du mal. J'ai déjà un petit peu attaqué la dernière fois là-dessus. Ou encore, délivre-nous du malin. Dans cette prière, nous venons juste de demander à Dieu son aide pour que chaque jour, nous soyons préservés de céder à toutes les tentations que la vie place devant nous. Et j'avais expliqué que les tentations, elles étaient partout dans le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Mais cela n'épuise pas du tout, lors de l'épreuve de la tentation, le besoin profond de notre âme d'être délivré du mal. Donc, ce bout de verset qu'on a ici. Le mot grec utilisé pour mal, ici, permet plusieurs sens. Et donc les opinions des interprètes, des scribes, au fil des siècles, ont été très divisées. C'est intéressant de s'arrêter dessus. Certains ont traduit du mal, comme ici, du mal, sens général, du mal. En s'appuyant notamment sur différents textes, je vais en citer un, 2 Timothée 4, 18, le Seigneur me délivrera de toute entreprise perverse. Voilà ce qu'on prend comme mal ici. De toute entreprise perverse en me gardant et me sauvera en me gardant pour son royaume céleste. Fabuleux. Le mal est désigné là comme toute entreprise perverse. Cette traduction du mal, suivant principalement dans les milieux protestants, la version de Luther a tendance à être de plus en plus abandonnée, on va dire. D'autres traducteurs sont partisans de l'interprétation du malin ou du mauvais, du tentateur, du diable. Et ils avancent à juste titre tous les passages dans la Bible, et ils sont nombreux, où Satan est reconnu comme une personne, est nommé comme un être. La plupart des liturgies anciennes, grecques, latines, et nombre des pères de l'Église ont validé et transmis ce sens. Parfois, ce mot « mal », je vais mettre les choses au clair, c'est pas « mal », M-A, accent circonflexe, L-E, hein. C'est tant pour les hommes que pour les femmes. Ok. Parfois, ce mot « mal », M-A-L, donc, est aussi interprété comme se rapportant à l'homme lui-même, et à son caractère méchant ou violent. Ésaïe 55, 7, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, méchant, iniquité. Qu'il retourne à l'Éternel, quelqu'un sait la suite du verset, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Fabuleux. Fabuleux, comme dans tous ces versets, il y a la cause et à la réponse. Ou encore Matthieu 5, 25, par rapport aux méchants, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. D'autres interprètes, tout en traduisant du mal, limitent ce sens au mal moral, c'est-à-dire au péché. Les catholiques, les luthériens font de ce dernier soupir, donc de ce dernier passage, une prière distincte de toute la précédente, dans le but d'obtenir 7 demandes, ce qui est un chiffre biblique, un nombre sacré. Pour ma part, je trouve plus fidèle au sens des Écritures, mais aussi plus judicieux, la pensée que tous ces différents sens se complètent mutuellement. Derrière le mal, derrière le méchant, il y a toujours celui qui inspire une entreprise mauvaise, comme on l'a lu tout à l'heure dans notre texte. Toute entreprise perverse. Ainsi, pour être délivré du mal, de la tentation, de l'épreuve, il faut donc l'être aussi de celui qui en est l'auteur, Satan. On peut donc traduire et comprendre aussi bien du mal que du malin, voire de l'ennemi, voire du démon, voire de Satan, de qui finalement proviennent toutes les tentations. L'idée du mal, de façon générale, de sa source, de ses conséquences, répond, me semble-t-il, mieux à notre situation personnelle, à nos besoins propres. Nous savons plus ou moins bien de quel mal, ici, nous souffrons. Je ne parle pas de la maladie physique, savoir si on a une grippe ou une angine, non, ce n'est pas du tout ça, mais de quel mal nous souffrons. Nous savons à peu près ça, à peu près. Cette idée s'applique également généralement donc à l'auteur lui-même, au tentateur lui-même. Être délivré du mal ou de tout ce qui nous assaille, sous toutes ses formes, physiques, morales, spirituelles, c'est-à-dire, si on veut un petit peu énumérer, du péché et de toutes ses conséquences, des tentations, de toutes les tentations qui viennent devant nous, qui sont légitimes, on l'a dit encore, qui sont légitimes, des tentations et de celui qui en est l'instigateur, qui nous pousse ou nous tire, c'est selon. De notre vanité ou de notre orgueil, de notre vanité ou de notre orgueil, et là on a à se mettre devant Dieu, de notre vanité et de notre orgueil, c'est des pans de notre structure humaine, sous lesquels nous soupirons, qui nous enferment, nous exilent et nous coupent de Dieu. Mais aussi d'un tas de causes, de raisons, d'obstacles, de processus qui sont propres à notre vie, à notre monde, et qui agissent en nous, dont nous avons ou pas conscience, ou plus ou moins conscience, mais qui nous lient véritablement, bloquent notre discernement et nous empêchent finalement de recevoir cette délivrance qui est promise par Dieu. Petit aparté sur dimanche passé. Désolé pour ceux qui n'y étaient pas, j'espère que ça vous incitera à regarder le film. C'était le cas dans notre histoire de samedi, avec le sentiment d'injustice, de colère, de révolte qui prenait toute la place dans la vie de Mackenzie et qui occultait tout le reste, lui barrant la route du pardon et la route de la vie. Et vous avez vu tous les retentissements que cela avait, pas simplement sur lui, mais sur sa famille, sur son entourage, sur ses relations, sur sa vie intime. C'était le cas également avec ce sentiment de culpabilité qui minait la vie de sa fille, en ne lui permettant plus d'être elle-même et de vivre. Elle ne vivait plus. Ce sont entre autres des réponses à ces requêtes spécifiques de délivrance du mal, de demande à Dieu d'ôter ces obstacles que nous avons aussi vécus dimanche, avec des verrous qui tombent d'un coup. Dès que nous avons acté devant Dieu notre besoin, notre désir de lâcher prise totalement. Il sait, lui, exactement, pas à peu près comme nous, mais il sait exactement le mal dont nous avons besoin d'être délivrés. Il le sait exactement. Il sait exactement le bon moment pour nous y amener. Et cela reste personnel. Personnel dans un échange entre nous et Dieu, entre Dieu et nous. Nous ne pouvons pas ici nous mettre à la place de l'autre. Ah, nous pouvons prier pour lui. Mais nous ne pouvons pas nous mettre à la place de l'autre, de notre frère. Et nous ne devons pas non plus juger le degré de sa foi à l'aune des délivrances qu'il vit ou qu'il recherche, peut-être sans les avoir reçues encore. Ce temps, c'est le temps de la réponse de Dieu à la prière du captif, de l'exilé, du malheureux, du révolté, de l'affligé qui implore son libérateur. Une requête, un appel, une prière, un cri vers Dieu, mais vers un Dieu qui l'entend, vers un Dieu qui n'est pas sourd. Dieu avait dit à son peuple opprimé, « J'ai entendu ton cri, je ne suis pas insensible à tes souffrances. » Un cri qui dit « Délivre-moi du mal qui me coupe de toi et du mal en général. » Est-ce que vous avez remarqué que le mot « prier » et le mot « crier »,« prier » et « crier » se ressemblent fortement? Une seule lettre les différencie. Ils parlent tous les deux d'une expression qui sort de notre bouche et s'adresse à quelqu'un. Ici, c'est Dieu. On pourrait dire que la seule différence entre ces deux mots, c'est le volume sonore qui sort de la bouche. Prier et crier. Lorsqu'on travaille pour le parcours baptême, je fais un appel, un aparté, on va recommencer un parcours baptême. Venez me voir si vous êtes intéressé. Interpeller. Je dis toutes les fois, mais criez à Dieu, criez, hurlez à Dieu. Ou faites-le doucement, mais faites-le, parlez à Dieu. Que cette demande soit intérieure, à voix basse, dans l'intimité de notre chambre, de l'endroit où on est, du bel endroit de la nature où tout d'un coup on est émerveillé et on sent monter quelque chose vers Dieu, ou que ce soit hurler vers Dieu, peu importe. La prière ou le cri sont un appel vers lui pour qu'il nous aide. Deux versets dans les psaumes. Dans ma détresse, David, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Et puis ce verset du psaume 138, le verset 3 que j'aime beaucoup, « Au jour où j'ai crié, tu m'as répondu. » Et vous savez la suite ?« Tu m'as enhardi, donnant force à mon âme. » Crier à Dieu pour être enhardi, s'enhardir. Vous savez, quand on est gamin, on n'ose pas. On ose la première fois qu'on va acheter tout seul avec un billet, on dit « Tiens, tu vas acheter un pain, puis on doit 30 des sous. » On ne sait pas compter. On n'ose pas, puis on s'enhardit. Allez, on y va. Puis on y va tout droit, en principe, puis on demande. Mais Dieu nous enhardit. Il enhardit notre âme si on crie à lui. Nous lui indiquons par là que nous avons compris que tout seul, il nous est impossible d'avancer à un moment. Que nous n'y arrivons pas. Que nous n'y arrivons pas tout seul. Et nous lui confions dans le même temps que lui seul peut nous aider. Que nous lui faisons confiance, que nous croyons avec foi en sa puissance pour nous délivrer lui-même de cette emprise qui nous tenaillait, que lui seul connaît exactement. Si toutefois telle est sa volonté, son plan pour nous, de le faire à ce moment-là. Et c'est un des moments clés de cette oraison, de cette prière, un temps de recherche intense, de communion avec Dieu. Et d'une réponse de sa part, vite, vite s'il te plaît. Peut-être. Un besoin de libération qui devient vital pour nous, à tel point qu'avec son aide, finalement, nous arrivons à desserrer toute étreinte et à lâcher prise. Là où, seul, tout seul, nous étions ligotés, enserrés, enfermés comme dans un carcan, sans lui et surtout sans issue à nos propres yeux. Moment de libération fort vécu par l'enfant de Dieu. En même temps, moment de réception d'une bénédiction intense, énorme, venant d'en haut. Et on l'a déjà dit ce matin, pas seulement pour la personne qui reçoit cette réponse, mais aussi pour toute la famille, pour tous les frères et sœurs qui le vivent et le partagent dans une communion étroite où la gloire de Dieu se manifeste au sein de son Église, au sein des frères et des sœurs réunis en son nom. C'est la conscience, tout d'un coup, réelle de la présence active de Dieu en un lieu précis, à un moment précis. C'est vivre ensemble le verset direct de Matthieu 18, 20, « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand Dieu est au milieu de nous, il ne reste pas inactif. Il n'est pas mou comme on était mou ce matin. Non, il est actif, vivant. Nous avons un Dieu vivant. C'est ici toucher et vivre véritablement la bénédiction de Dieu. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, ces quatre mots, c'est probablement ainsi que se terminait dans les textes originaux la prière du Notre Père. Délivre-nous du mal, point. Dans Luc, vous la trouvez comme ça. Il y a d'autres choses derrière, mais pas ce qu'on a ici. En effet, il semble bien que la toute dernière phrase, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans tous les siècles, Amen », quoique très ancienne, cette dernière phrase n'appartient probablement pas au texte primitif, selon le témoignage des plus vieux manuscrits, des versions les plus anciennes connues et des pères de l'Église. Elle n'apparaît pas dans Luc, vous l'avez lu. Beaucoup de versions modernes l'excluent carrément du texte. Dans les manuscrits où elle se trouve, elle apparaît d'ailleurs souvent partiellement ou avec de nombreuses variantes. Son introduction dans notre texte moderne est due à des copies qui servaient lors du culte public lors de la première moitié du IIe siècle, où elle avait toute sa place dans la liturgie de l'époque. Elle a ainsi été conservée dans les traductions, souvent, jusqu'à nos jours, car elle ne renferme finalement que des expressions bibliques propres à inspirer une grande confiance en celui qui exauce la prière. « À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. » C'est précisément le sens que le Christ veut donner à cette prière et qu'il souhaite nous inculquer dans ce modèle de prière, tant sur la forme que sur le fond. Prier, oui, mais en reconnaissant que Dieu est saint, que nous attendons son règne, qu'il a tout pouvoir, qu'il a tout pouvoir. Donc qu'il a tout pouvoir pour nous délivrer du mal, qu'il a tout pouvoir pour nous aider à pardonner, pour ne pas nous soumettre à la tentation. Il a tout pouvoir. Ainsi, avec cette phrase de conclusion, nous associons à chaque élément de notre prière le pouvoir, la force, mais aussi la grâce de Dieu. Pour qu'elle devienne réalité, qu'on puisse la palper pour nous, aujourd'hui. On se l'accapare en quelque sorte. Nous reconnaissons aussi ainsi, au moment où nous prions, qu'il est Dieu, une fois pour toutes, qu'il règne pour toujours. Alors au ciel, bien sûr, mais là, sur la terre, au centre de nos vies, au-dedans de nos vies, dans notre cœur. Nous attestons qu'il est le Tout-Puissant, il peut tout, il a tous les pouvoirs, notamment pour nous aider dans toutes nos requêtes et y répondre dans ce qu'il trouvera bon, utile et nécessaire pour nous, selon son plan pour nous, selon son désir, finale et non selon notre envie à nous. Peut-être ce sera même moment, peut-être ce sera les mêmes, peut-être pas. Pour que nous puissions humblement reconnaître notre faiblesse de pécheur et vivre malgré tout en nous remettant entièrement corps, âme, esprit à son écoute, à sa parole, à son pouvoir, à son service. Ainsi, nous lui laissons les règnes de notre vie. Mais en même temps, nous témoignons finalement que toute la gloire lui revient à lui seul. Et c'est la fin de cette requête. Et nous pouvons dire finalement « Amen ». Amen. Amen, ça veut en gros dire deux choses. Et je terminerai sur ce mot. Ça veut dire « c'est vrai ». Je l'atteste, c'est vrai. Mais ça veut aussi dire que cela s'accomplisse. Que cela s'accomplisse. Alors nous lirons peut-être la prière différemment. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à un moment de silence, après quoi nous prendrons la scène. Ensemble, lu, étudié cette prière, nous voulons te dire Amen. C'est vrai. Nous souhaitons que cela s'accomplisse. Et nous voulons attester que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu. Amen.
Nous avons la joie et le plaisir ce matin de partager la scène. Je vous invite à lire le premier récit, ou le récit de la première scène, qui est situé en Matthieu 26, la scène que Jésus a partagée avec ses disciples, juste avant de donner sa vie pour nous racheter. Matthieu 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est vrai que partager la scène, c'est se souvenir du sacrifice de Jésus. Se souvenir qu'il a donné sa vie pour nous racheter. Mais Jésus a dit aussi, buvez-en tous. Alors bien sûr, il s'adressait à ses disciples. Mais le salut en Jésus-Christ n'est pas réservé seulement à certains, il est disponible pour tous. Pour tous ceux qui croient et qui reçoivent ce salut. Alors si vous n'avez pas encore reçu ce salut, laissez simplement passer le pain et le jus de raisin à votre voisin, mais réfléchissez à ce que cela représente. Alors partager la scène, c'est aussi annoncer que Jésus revient. Qu'il revient bientôt. Quelle magnifique espérance de savoir que nous partagerons alors un immense repas, tous ensemble, avec Jésus, dans le royaume de Dieu le Père. C'est toujours très émouvant pour moi de penser à cela, que ce repas qu'on prend ensemble, c'est une préfiguration de ce qu'on vivra dans l'éternité avec Christ, dans la présence de notre Dieu. Alors si deux personnes veulent bien s'avancer pour faire le service. Je partage avec vous les annonces pendant que les gobelets sont ramassés. Il y a cet après-midi, à l'église du Réveil de Gex, un concert donné par Yann Fontaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont plein de nouveaux chants qu'il a écrits. C'est donc à 17h30, donc à l'église du Réveil de Gex. Si quelqu'un ne savait pas où est située cette petite église, ben, n'hésitez pas à nous demander. Le programme de la semaine s'affiche. Le samedi 14, donc pas samedi prochain, le samedi d'après, ça viendra assez vite, il y aura un club d'enfants. Donc un club d'enfants de 10h à midi pour les enfants de 4 à 14 ans. 4 à 14 ans. Et c'est important d'inviter des enfants. Parce que si on veut qu'ils viennent, ben, il faut les inviter. Alors voilà, si vous avez des connaissances, des voisins, des voisines, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a encore des flyers. On va les ressortir, voilà, pour que vous puissiez aussi laisser un petit papier. Ça aide aussi. Lorsqu'un petit papier est laissé, on se rappelle aussi plus facilement. Courant novembre, il y aura une exposition sur les 500 ans de la Réforme. Et donc, on vous donnera les dates plus précisément un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle sera visible tout d'abord à Saint-Genis, à la salle Jean Monnet, et ensuite elle terminera à l'église catholique de Ferney. C'est un sacré clin d'œil, je trouve, que l'église catholique accueille une exposition sur les 500 ans de la Réforme. Sinon, il y aura un exposé. J'ai mis quelques flyers sur le petit meuble au fond de la salle. Un exposé sur le thème émotion, foi et cerveau. Intéressant comme sujet. C'est donc une médecin, Stéphanie Clark, qui va donner cet exposé. Elle est médecin et professeur, donc ce sera le 18 novembre, c'est pas tout de suite, ce sera le 18 novembre dans une église de Crissier, à l'église évangélique de Crissier, et c'est organisé par l'association des conseillers chrétiens. Et on a eu l'information par Horizon 9. Voilà, par contre, il faut s'inscrire. Oui, donc voilà. Continuons de penser à ceux qui souffrent, ceux qui prennent de l'âge aussi. Et je vais laisser la place à Raymond pour nous donner des nouvelles de Brian et Hélène.
Alors, on arrive ce matin avec Pascal de Nice par l'avion du matin. On était hier pour la journée à Nice pour les 90 ans de Brian, 90 ans de Brian. Une surprise qui a été faite par ses enfants. Il s'attendait à avoir un repas avec ses enfants et les sœurs d'Hélène. Et puis étaient là présents plusieurs amis de longue date du rencontrés au cours du ministère de Brian, quelques-uns de Paris et d'autres coins de la France. Tous ses enfants, bien sûr, donc quelques amis comme ça. Nous étions là avec Pascal. On avait aussi Jacques Kuipers qui était avec nous. Et c'était beaucoup d'émotions pour Brian et Hélène, en découvrant, en arrivant dans la salle, dans un cadre magnifique, dans un restaurant qui domine la mer à Nice, là, avec une belle vue, c'était une journée splendide. Et voilà, ça fait quelques mois que j'avais pas vu ce sourire profond sur le visage de Brian et d'Hélène. Ils étaient vraiment heureux, c'était une bonne journée. Et ils sont maintenant installés là-bas dans j'ai pas eu moi l'occasion d'aller voir leur petit appartement, mais Jacques, qui a voyagé avec nous, nous a dit qu'ils étaient vraiment très très bien, très sympa, avec une belle vue, tranquille. Tout ce qu'il faut sur place, ils sont indépendants, tout en ayant à côté la réponse à leurs besoins, qu'ils soient médicaux, de repas ou autres. Avec Laurent, leur fils, qui habite sur Nice, qui n'est pas loin. Donc voilà, on est tous ici un peu rassurés, parce que ces derniers temps ici, on avait un peu du souci pour leur santé. C'est difficile quand même encore pour Hélène, qui se trouve dans un appartement qui était meublé, avec quelques-unes de ses affaires, mais beaucoup de leurs meubles n'ont pas suivi. Donc le temps d'adaptation à ce gros changement n'est pas évident. Mais voilà, ils sont bien, ils sont heureux. Ils ont déjà des contacts dans la résidence, vous le pensez bien. et voilà, donc on est reconnaissant pour ce temps. On veut continuer de penser à eux parce que c'est pas forcément une étape facile. Moi, j'ai été réjoui hier de voir aussi les relations sont pas toujours faciles avec leurs enfants par rapport des fois au niveau de la foi et d'autres. Mais j'étais particulièrement touché au moment où Brian a dit quelques mots qui tenaient la main de son fils Laurent. Et Laurent a été touché beaucoup plus qu'il a laissé paraître. Il l'a dit, nous l'a dit à nous. Donc voilà, c'est aussi des pensées qu'on peut avoir. Ils ont un temps à vivre avec leurs enfants. Quand on est dans le ministère comme ça, c'est pas toujours évident d'avoir tout bien réussi avec nos enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, ils ont un temps où ils peuvent vivre ça. Donc je pense que ça doit être dans nos prières. Donc je vous les remets vraiment comme ça pour prier aussi pour ce temps d'adaptation. Et puis Hélène, qui a encore un petit peu de temps, qui est encore un peu déphasée, ils ont un gros regret tous les deux, c'est de ne pas avoir pu dire au revoir à l'église. Ça, c'est pas, il fallait tout d'un coup qu'ils partent assez rapidement, c'était pas possible, donc c'est un regret pour tous, mais vraiment, vraiment, ils nous transmettent ce regret profond, ils auraient voulu partager ce temps. Combien vous leur manquez tous, combien nous leur manquons tous, et que Brian m'a bien rappelé, on est encore membre de votre église et on pense à vous, pensez à nous. Et juste pour terminer, c'est Hélène qui m'a dit, il y en a quelques-unes qui devraient m'écrire plus. Alors je vais pas dire les noms ici, mais moi je les ai. Voilà.
Puis moi j'aimerais dire que si on va passer des vacances dans le sud, vers Nice, ben, allons leur faire un petit coucou, une petite visite.
Ça, c'est tout. 45 minutes d'avion.
Voilà, en plus. Et là, on est sûr de leur faire plaisir. Des nouvelles d'Anne-Lise. Anne-Lise est toujours hospitalisée à l'hôpital cantonal de Genève. Elle est actuellement en dermatologie, donc ça ne va pas fort. Ses plaies ont recommencé à se développer. Donc elle est en dermatologie actuellement, une greffe de peau sera probablement faite en début de semaine. Par contre, Anne-Lise souffre encore beaucoup, tout particulièrement de ses articulations. Donc prions vraiment pour elle, qu'elle soit fortifiée, qu'elle puisse aussi souffrir moins, parce que c'est pas facile quand on souffre tout le temps. Alors elle reçoit des doses assez fortes d'antalgiques, mais cela n'empêche pas les visites. Et je crois qu'Anne-Lise est très sensible aux visites. Anne-Lise est une communicatrice experte. Elle aime parler, discuter. Elle aime recevoir les visites aussi. Alors si vous voulez lui faire plaisir, c'est bien aussi de la visiter. Donc n'hésitez pas. Je ne vous donne pas l'étage parce que là où elle est, parce que ça va changer. Puisque après, elle était au 8e étage. Elle est maintenant au 4e. Et puis probablement qu'après la greffe, elle va retourner au 8e étage. Donc, il suffit simplement de demander à l'accueil. Et puis, voilà, n'hésitons pas de la visiter et de la remettre aussi dans nos prières. S'il n'y a pas d'autres... Oui, Nancy, oui, tu peux venir, oui.
J'aimerais juste vous parler de notre fête de Noël, quoi. Spectacle de Noël, je ne sais pas si on peut dire de Noël, mais donc spectacle qu'on prépare. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont commencé depuis quelques mois un peu dans l'ombre, les décors, les costumes, la chorale qui a déjà commencé. Nous, on a eu hier la première répétition, c'était super, on va avoir un super spectacle. Juste pour dire que vous remettre aussi donc, ce spectacle dans la prière pour toutes les personnes qui vont venir le voir, qu'on peut déjà commencer à y penser maintenant, pour les répétitions, tout ça, pour que tout le monde reste motivé et qu'on fasse bien ça en l'honneur de notre Dieu. Rappelez, il nous manque quelques figurants, 6-7 personnes. Je vous assure qu'il n'y a pas de texte, c'est vraiment figurant et c'est top chrono, 3-4 minutes sur scène. Donc vous ne manquerez pas le début ni la fin, quoi. C'est vraiment 3-4 minutes, mais on a besoin d'un peu plus de personnes à un moment précis dans le spectacle. Donc, s'il y a 2-3 personnes, et c'est juste pour vous dire, c'est lors du recensement, donc ça peut être des plus âgés, ça peut être des plus jeunes, on va déjà jouer un peu avec les enfants et d'autres personnes, mais vraiment, on fait un petit appel, on a besoin d'avoir ce monde sur scène. 6-7 personnes et 3 minutes sur scène. Et puis, ceux qui étaient prévus pour la répétition, s'il y en a qui sont là, Hérode, les mages, les gardes, les danseuses, si vous pouvez venir vers moi juste à la fin, faudrait qu'on va trouver une autre date parce que ça va pas pour plusieurs personnes. Donc ne partez pas trop vite.